ce matin, je vous invite à chercher votre Bible, deux versets, et ces versets presque on connaît par cœur. Hein, dans Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais intituler ce message un appel pour chacun d'entre nous, et je l'intitulerai ainsi: consacrons-nous à Dieu et soyons reprogrammés dans nos pensées ou dans notre intelligence. Donc ce matin, donc deux points: pourquoi se consacrer à Dieu à travers ce passage court, et pourquoi reprogrammer notre intelligence. Et c'est dans ce passage que nous trouverons la réponse. Pourquoi se consacrer à Dieu, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, comme notre frère a rappelé tout à l'heure, hein, le péché, c'est le problème fondamental de tout, dans nos relations avec Dieu et nos relations avec nos semblables. Donc, le péché a abîmé nos relations avec Dieu et nos semblables. Ce double dégât, je dirais, est réparé quand nous acceptons par la foi le sacrifice de Jésus-Christ, une fois pour toutes sur la croix à notre place, pour porter les peines éternelles méritées à cause de nos péchés et pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Maintenant, replacés par la grâce de Dieu dans des relations normales avec Dieu, chaque croyant doit, en réponse aux compassions divines, c'est ce que nous avons lu dans le verset tout à l'heure, dont on était l'objet, consacrer à Dieu nos corps pour le servir, comme il est rappelé au verset 1, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce petit « donc » est très important parce qu'il fait le lien entre les versets qui précèdent les nôtres et ce qui suivra après. Cette conjonction de coordination est essentielle. Et il fait le lien donc entre ce que est la compassion de Dieu qui nous permet, en réponse à cette compassion, de nous donner à Dieu. Quelles sont les preuves de la compassion de Dieu dont nous sommes l'objet? C'est très intéressant parce qu'il faut, Paul, depuis chapitre 1 jusqu'au chapitre 11 de Romains, va nous faire rappeler les compassions de Dieu à notre égard, pécheurs que nous sommes. À titre juste de rappel, hein, le grand pardon dont Dieu nous a accordé en Jésus-Christ, nous qui sommes pécheurs. Romains 4. L'épreuve de la compassion de Dieu, la justification pour les coupables que nous sommes devant Dieu. Romains chapitre 3, à partir du verset 24 et la suite. La rédemption pour des esclaves, hein, du péché que nous étions. Il nous a libérés du péché, du jugement de la loi et de la colère de Dieu sur nous. Et ce qui est formidable, il a accompli cela de manière désintéressée, gratuite. La réconciliation, parce que nous étions hostiles à Dieu, rebelles à Dieu, nous sommes des ennemis de Dieu. Et la libération, hein, le croyant maintenant peut vivre au-dessus de sa nature pécheresse, et échapper à son contrôle. Romains chapitre 8 qui traite de ce sujet. Il nous a transformés pour que nous puissions servir la justice de Dieu. Chers frères et sœurs, quand on rappelle à ces choses, nous ne pourrons pas rester indifférents devant tout ce que Dieu a fait pour nous, pour le sacrifice suprême de son glorieux Fils. Et je dirais, cela doit nous toucher au profond de nous-mêmes et devrait nous stimuler à nous donner à Dieu sans réserve, sans réserve. Alors, L'appel ici, c'est d'offrir notre corps en réponse à la compassion de Dieu. Pourquoi offrir nos corps? Deux choses que je vois dans ce texte. D'abord, parce que notre vie doit être un sacrifice pour Dieu. Un sacrifice, vous l'entendez très bien, c'est quelque chose qui coûte. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Ici, il parle de sacrifice vivant. Je dirais, à l'opposition dans les sacrifices offerts à l'Ancien Testament, ils étaient morts avant d'être placés sur l'autel. Parce qu'il faut égorger pour récupérer le sang que le sacrificateur va utiliser après. Et le sacrifice mort est présenté une seule fois, mais celui vivant, le sacrifice vivant, est à présenter plusieurs fois, chaque jour, tous les jours. Vous voyez? Donc, offrir son corps est agréable à Dieu, et c'est ce que Dieu cherche chez le chrétien. C'est la vie de ceux qui ont bénéficié des compassions de Dieu et qui est placé sur l'autel du sacrifice. Et c'est tous les jours. Tous les jours. Alors, quel est alors le sacrifice agréable à Dieu? Le sacrifice, il parle de sacrifice raisonnable. C'est le sacrifice entier, sans réserve, de tout notre être. C'est le sacrifice qui dit, Dieu m'a racheté par le sang de Christ, je ne m'appartiens plus à moi, donc plus à moi-même, mais je lui appartiens. Et Paul, par ailleurs, rappelle bien cela, 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Donc, le fait de s'offrir, ce n'est pas un luxe de plus. C'est déjà, si nous ne nous offrons pas, c'est un vol, parce que nous volons Dieu de ce qui lui appartient, notre corps, notre être tout entier, quand il nous a rachetés. Donc, c'est tout à fait normal et logique que nous nous offrons et nous consacrons à Dieu. Pourquoi offrir nos corps? Parce que le sacrifice que Dieu agrée passe par le don de notre corps. Il faut rappeler que ce texte donne décrit l'ambiance de l'époque, l'insistance sur le corps. Pourquoi? Parce que à l'époque, il y a une doctrine d'origine grecque qu'on appelle le gnosticisme, qui menaçait déjà l'Église. Cette doctrine méprisait le corps. Dans cette doctrine, il est enseigné que ce que vous faites avec votre corps, vous faites ce que vous voulez, mais Dieu, ça ne le regarde pas, il ne s'intéresse pas. Et ce n'est pas vrai du tout. D'après l'enseignement de l'apôtre Paul, Dieu s'intéresse à notre corps et il veut qu'on l'offre comme un sacrifice tous les jours. Donc, le gnosticisme, il y a les gens qui vont dans deux excès. Il y a ceux qui détruisent le corps parce que ça, Dieu ne s'intéresse pas, donc ils vont dans l'ascétisme, on se prive de tout. Et il y en a ceux qui vont dans l'autre côté, la licence. Je fais tout avec mon corps, ce qui me plaît, ce que je veux, comme Dieu ne s'intéresse pas. Donc c'est un danger pour l'Église à cela. Et donc, Jésus lui-même a montré l'importance quand il est venu par l'incarnation. Il dit, dans Hébreux, nous lisons 10, verset 5 à 7, « Christ entrant dans le monde, dit, en parlant à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Voyez. « Voici, je viens dans le rouleau du livre où il est question de moi, pour faire ta volonté. » Donc, Dieu veut que nous lui servons avec notre corps, nos mains, notre bouche, nos pieds, tout doit lui être soumis. Comme 1 Corinthiens 6, verset 20, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ils appartiennent déjà à lui. Donc, tout au long de la journée, je dirais, notre corps, le temple du Saint-Esprit, incarne l'amour de Dieu pour notre prochain. Nos actions, nos paroles, plus précieuses pour Dieu que la plus belle des cathédrales, montent comme une louange à Dieu. Voilà ce qui est pour Dieu un culte raisonnable. Et je dirais, cet acte de se consacrer à Dieu n'est pas réservé que pour quelques élites chrétiens, c'est pour tous les chrétiens. Parce que c'est le culte raisonnable de tous les sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, j'espère que c'est déjà une réalité dans votre vie au quotidien. Sinon, ne tardez pas à offrir à nouveau votre corps à Dieu pour son service, pour qu'il vous dirige et qu'il peut être utilisé pour sa gloire. Je tiens quand même à rappeler que nous nous offrons à Dieu parce qu'il s'est offert à nous, mais jamais pour obtenir sa faveur. Il y a des religions qui poussent à faire beaucoup de choses pour susciter Dieu à ce qu'il ait pitié de nous en faisant des choses agréables. Non, parce qu'il s'est déjà offert à nous, il est digne et c'est une réponse normale que nous nous offrons à lui, surtout que nous lui appartenons déjà. Non, pas pour mériter sa faveur. Pourquoi reprogrammer notre intelligence? Il y a l'expression dans ce verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Siècle, c'est l'âge. Il y a l'âge présent, mais la Bible parle d'un âge à venir, où Christ va régner. Christ va régner sur terre. Tout sera sous sa direction, sous son autorité, sous sa souveraineté. Et donc le monde présent ou le siècle présent, c'est une mentalité, c'est une attitude avec des valeurs, avec une philosophie. Et quand il vous dit ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire que ce monde exerce une pression constante sur chaque enfant de Dieu. Vous le sentez, vous le voyez dans votre vie personnelle, combien cette pression est là qui agit sur notre pensée et qui nous dicte une manière d'agir. Et c'est là les difficultés. Des moments, on a peur de qu'on dira tant, on fait du compromis. Et vous êtes sujet à ça tous les jours, chers frères et sœurs. Chacun d'entre nous est sujet à ça. Même au collège, même au lycée, même à l'université. Et donc, c'est important de reprogrammer le logiciel qui est notre cerveau pour qu'il puisse fonctionner avec un nouveau logiciel, la vie que Dieu a donnée en nous pour que nous puissions vivre selon cette nouvelle vie. Mais quand on parle de ne vous conformez pas au siècle présent, nous sommes toujours entre deux chaises, si je pourrais dire. Parce que nous ne pourrons pas sortir du monde. Dieu nous a laissés dans le monde. Donc il faut aimer le monde comme Dieu l'a aimé. Jésus s'est offert sur la croix pour montrer son amour pour le monde. Et nous y étions. Nous faisions partie avant, n'est-ce pas? Donc aimer dans le sens, les pécheurs créés à l'image de Dieu, de leur apporter l'évangile, leur apporter le message du salut pour qu'ils se tournent à Dieu. Oui. Mais nous devons nous méfier, comme dit Jean aussi dans 1 Jean 2, 15, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde dans le sens de ne pas épouser sa philosophie, de ne pas adopter sa philosophie dans divers domaines de notre vie. Et c'est ça la pression de tous les jours. Donc le monde dont nous devons nous méfier, c'est une attitude, une philosophie, une mentalité, des valeurs, comme je viens de le dire. Et donc c'est très important de faire attention, et ce message est pour nous une actualité, je vous assure, aujourd'hui même, par rapport à ce pression qui nous tombe chaque jour sur nous. Et celui qui ne prend pas conscience, qui a une lutte à mener pour rester fidèle, se compromettra très facilement. Comment se protéger l'esprit contre l'esprit mondain ou du monde? D'abord, ne pas se conformer au siècle présent. Juste le mot conformer, très intéressant. Conformer, ça veut dire avoir une forme semblable, c'est un moule. Imaginez le métal fondu qu'un ouvrier doit couler dans un moule pour prendre une forme. Ou bien une ménagère qui prépare une gelée de fruits à mettre dans un moule. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va le faire couler dans le moule et en le laissant, il va se solidifier et prendre la forme du moule. Ça, c'est ne pas se conformer. Spirituellement parlant, le monde est le moule de Satan. Le monde est le moule de Satan. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons moulés dans ce moule. Pourquoi? Parce que Dieu a un autre moule dans lequel nous devrions être conformes. Romains 8, 29, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et donc c'est à l'image de Christ que les croyants doivent ressembler. Chers frères et sœurs, il est extrêmement facile d'être conforme au monde qui nous environne et de se laisser saisir par l'engrenage. Presque inconsciemment, je dirais, les chrétiens peuvent suivre les pratiques, que ce soit dans les domaines commerciaux, dans les questions d'éducation des enfants, dans la culture, dans la mode, le plaisir, les dépenses, etc., etc. Mais tout en professant de suivre Christ. Ça, c'est la lutte que nous menons, chacun et vous et moi, chaque jour. Le monde nous dicte de dire, c'est la rentabilité qui compte, tu dois tricher, sinon à la porte. Et le chrétien, il dit, non, je ne peux pas. Il est préférable pour moi de suivre ce que Dieu me dit. Je ne peux pas tricher, monsieur. Eh bien, au revoir, monsieur. Vous cherchez ailleurs. Et ça, c'est la pression chaque jour. Un exemple parmi tant d'autres. Donc, nous devions nous ressembler à l'image de Christ. Et ça commence dès maintenant dans tous les domaines de notre vie. Ceux qui sont en Christ n'ont donc d'autre choix que de résister à cette attitude mondaine qui vient à la fois du dedans, mais aussi du dehors. Donc, en même temps que nous résistons à cette influence du dehors, on doit céder volontairement à une nouvelle influence, c'est l'influence du Saint-Esprit. Vous voyez? Le verbe, deuxième verbe, comment ne pas se protéger contre l'esprit mondain? C'est d'être transformé au niveau de l'intelligence. C'est intéressant, donc, être transformé par rapport à se conformer, c'est différent. Dans le fait de se conformer, on a dit, on garde la même matière, mais on lui donne une autre forme. Vous voyez, gilet de fruits restera un gilet de fruits avec une forme qu'on voulait avec le moule. Par contre, être transformé, il y a un changement de matière. Vous voyez la différence? Il y a un changement de matière, changement de contenu. Quel est le nouveau contenu? Le jour où vous placez votre foi en Jésus-Christ pour être votre sauveur, Dieu implante en vous une vie divine, la vie de Dieu. Ça, c'est le nouveau, nouvelle matière, la nouvelle vie. Et c'est ça qui change tout. Et donc maintenant, une fois que cette nouvelle vie est là, petit à petit, elle va nous diriger dans ce que Dieu veut. Et comment on peut le savoir? À travers la parole de Dieu. Donc, ça c'est très important. Donc, la personne est transformée à cause de cette vie nouvelle, depuis sa conversion jusqu'à la parfaite ressemblance, c'est-à-dire la conformité à l'image de Christ. Imaginez qu'on ne veut pas se conformer, mais on n'est pas transformé. Qu'est-ce qui ressort? Tout simplement, on ne sera jamais à la ressemblance de l'image de Christ. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument un changement intérieur, un nouveau matériel, un nouvel élément, qui est cette vie divine par la présence du Saint-Esprit. Sinon, on aura juste une masque de chrétien, mais subrepticement à l'intérieur, on continue à faire dans la vie du péché. Mais heureusement, Dieu a introduit une nouvelle vie, un nouveau matière, et nous devrons être transformés ainsi, à l'image de Christ. Donc c'est très important d'être transformé à travers la parole de Dieu. Nous le savons très bien que le chrétien n'a pas en lui la force de changer, si on est honnête envers nous-mêmes. Il se sait comme le paralytique de naissance qu'il ne peut pas marcher malgré toute sa bonne volonté. On est bien d'accord. Il sait que la force nécessaire pour la transformation vient de la présence de Dieu en lui par le Saint-Esprit. Ceci nous conduit non pas dans une attente passive de l'œuvre de Dieu, mais le commandement « Soyez transformés » place la responsabilité de son jugement dans notre camp. Soyez transformés. Il y a une part qui vient de nous. Dieu a mis une nouvelle vie, mais cette nouvelle vie, nous devrions vivre selon elle, par l'aide du Saint-Esprit. Donc, à nous de chercher l'aide pour qu'il nous transforme progressivement. Mais la question, comment? Comment? Et c'est le procédé de transformation s'opère au niveau de l'intelligence. D'où le titre du message tout à l'heure. L'intelligence ou l'entendement vient du grec « nous ». Et c'est un terme qui englobe à la fois la faculté de comprendre, de penser, d'être attentif aux choses, aux événements, pour ainsi dire, poser des jugements moraux. L'important est la transformation de notre façon de penser. Comment? Et c'est là que j'utilise l'image d'un ordinateur. À l'image d'un ordinateur dont on formate le disque dur, afin d'installer un nouveau logiciel, il en est de même de nos pensées en reprogrammant notre manière de raisonner, notre manière de penser avec notre intelligence spirituelle fonctionnant en harmonie avec la parole de Dieu. Ça, c'est la reprogrammation. On efface, rase, reset tout ce qui était en Adam. Et maintenant, quand on a placé sa foi en Jésus-Christ, Dieu nous donne sa vie. Et sa vie va fonctionner avec la parole de Dieu. Chaque jour doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Tout simplement, pourquoi? Parce que notre manière de penser influence notre conduite ou notre manière de vivre. Et je vous laisse à lire chez vous la vérité de ces choses dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 23. Votre manière de penser va se traduire dans votre manière de conduire. Et la parole de Dieu dit ce que Dieu veut pour notre vie. Et avec ce nouveau logiciel, on va fonctionner en harmonie avec la parole de Dieu si on veut être transformé jour après jour. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va faire cette œuvre en nous, mais nous coopérons aussi. Soyez transformés, il y a notre responsabilité. Nous devons donc restructurer nos pensées et par conséquent notre vie selon la parole de Dieu. Et en même temps, nous adhérons, je dirais, à la conception biblique de la vie. C'est un miracle, chers frères et sœurs, c'est un miracle. Quand j'avais l'habitude de mentir, c'est un miracle que j'ai dit non, je ne veux plus Seigneur, je déteste, tu ne veux pas de cette vie. Je veux être transparent. Je vous dis, c'est un miracle. L'homme cherche toujours depuis Adam et Ève à s'enfuir et à trouver l'astuce pour ne pas se faire prendre. Depuis le début. Et quand il y a ce miracle dans votre vie, non, je ne veux pas mentir. Je ne veux pas tricher. Je ne veux pas ceci. C'est un miracle divin. Et ça, c'est la transformation dans laquelle tous ceux qui sont en Jésus-Christ doivent vivre au quotidien. Et ça commence ici. Parce que la bataille, c'est dans nos pensées. Toujours ce dicton qui disait « Je peux laisser les oiseaux voler au-dessus de ma tête, mais c'est moi qui décide qu'il ne fasse pas son nid dans ma tête. » Vous pouvez avoir plein de pensées qui font foule dans votre tête, mais c'est vous qui décidez, celle-là, je veux bien qu'il réside dans ma tête. Et quand il réside dans ma tête, il va se traduire en comportement. Vous voyez le lien? Quand on veut être transformé dans notre intelligence, ça va avoir un impact directement dans notre quotidien. Et c'est ainsi que nous éblouissons aux yeux du monde ténébreux. J'étais toujours frappé par ce jeune au cours de la Marne qui travaillait, avait un bon salaire, une bonne situation, et qui, son patron lui demande des choses. Quand on appelle, tu dis qu'il n'est pas là. Une fois, ok. Tu as bien compris. Si tu reçois l'appel, tu dis que le chef n'est pas là. Et le chef est là. Il dit non, je ne peux pas continuer. Êtes-vous prête à perdre votre emploi comme ce que fait ce jeune homme à dire, je ne peux pas tolérer le mensonge. Et c'est ça dont nous sommes appelés. Et ça commence par ici. Que la parole de Dieu soit réel dans nos vies. Vivre la Bible au quotidien, et c'est ainsi qu'il nous transformera. Et petit à petit, nous nous ressemblons à Jésus-Christ. Quand on se moque de moi, quand on me tourne en dérision, quand on m'insulte, comment Jésus a réagi dans les mêmes situations? Il ne faisait point de menace. Il n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que j'en suis capable? C'est un miracle. Si la parole de Dieu est une réalité pour moi et je veux le vivre, c'est possible. Et ce à quoi nous sommes appelés. Je dirais, ce procédé de transformation, d'abord, avez-vous remarqué le verbe de se conformer, de se consacrer, c'est un verbe au temps présent. Ça veut dire que c'est continuel, chaque jour, chaque jour. Donc l'ordre est important, hein, que le chrétien se donne à Dieu sans réserve et qui ne tardera pas à manifester le renouvellement de son entendement ou de ses facultés spirituelles, et ceci en devenant de plus en plus apte à saisir les vérités spirituelles de la parole de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et le croyant sera alors capable de discerner la volonté parfaite de Dieu pour sa vie, comme ce jeune homme que je viens de vous dire. La volonté de Dieu pour lui, c'est clair. Pas de duplicité avec le mensonge. Et il était capable, avec gentillesse et amour, de dire, « Monsieur, je ne peux pas. Je ne peux pas. » Et vous savez la conséquence. Grâce à cette transformation de fond, nous serons en mesure de tester, d'approuver dans notre propre vécu quelle est la volonté de Dieu et de trouver ce qui est bon et agréable et parfait aux yeux de Dieu. Ainsi, tout change. Nous voyons comme Dieu nous voit. Avant, nous voyons les autres comme un moyen que je peux me servir pour moi. Mais quand vous êtes en Jésus-Christ, vous ne voyez plus les personnes comme ça. Vous le voyez comme Dieu le voit, un être à aimer. Je dois être à son service. Je dois lui témoigner d'amour. Voyons les autres comme Dieu les voit, comment Dieu a vu le monde pécheur. Et nous allons les voir ainsi aussi. Et nous allons réagir en conséquence, porter l'évangile. Parce que Dieu nous a aimés et on veut aussi manifester l'amour de Dieu pour cette personne. Et comment Dieu a vu le monde? Et nous devrions voir le monde ténèbres perdues sans Jésus-Christ. Combien Jésus a pleuré quand il voyait ses compatriotes qui le rejetaient. Il pleurait dans son âme. Combien Dieu doit demander à Dieu de me donner le fardeau pour les âmes perdues. Vous êtes transformés. Oui, la parole de Dieu, les personnes et les circonstances rencontrées tout au long de notre chemin, sous la direction de l'Esprit, nous transforment petit à petit pour notre conformité à l'image de Christ. Oui, ce chef difficile, il était placé à tel moment de ma vie parce que Dieu veut m'apprendre la patience. Oui, ce chrétien qui était sur mon chemin 10 ans plus tard, ah, Dieu l'a mis là pour mon bien, pour m'apprendre comment servir le Seigneur. Ainsi de suite, tous les petits détails de notre vie, Dieu s'en sert pour que nous devions de plus en plus conformes à Jésus-Christ. Magnifique, magnifique. Oui, cette transformation n'est pas une option. Il est dit dans verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il est à l'impératif, donc c'est un ordre. Vous savez, vous ne pouvez pas jamais dire « je suis chrétien ». Si vous ne voulez pas accepter la transformation que Dieu veut opérer en nous, ça va ensemble. Vous ne pouvez pas dire « j'aime la justification, mais pas la sanctification ». Vous ne pouvez pas dire « j'ai la foi en Dieu, il n'y a pas d'œuvre qui témoigne de cette foi ». Vous ne pouvez pas les dissocier. Et vous ne pouvez pas dire « j'aime la gloire, être glorieux avec Dieu, mais j'aime pas la souffrance ». Jésus-Christ a subi la souffrance et la gloire après. Vous ne pouvez pas les dissocier. Et donc, c'est un impératif. Et comme j'ai dit, le verbe est au présent, une continuité, constamment, chaque jour, que nous soyons transformés. Donc, chers frères et sœurs, je veux m'arrêter. Le chrétien est engagé dans un processus de transformation, et cela se passe ici, dans la pensée. Et vous ne pouvez pas y arriver si vous n'avez pas la parole de Dieu, le guide sûr qui vous montre ce que Dieu veut de votre vie. Donc, l'amour pour Dieu, l'amour de se consacrer à Dieu, passe par l'amour de sa parole. Passe par le vivre au quotidien de sa parole. Que Dieu nous aide. Moi-même, je me sens si faible. Quand je lis ces choses que Dieu attend de nous, mais combien, si nous désirons de lui obéir, nous avons les ressources. Il a donné le nouveau logiciel. La nouvelle vie par le Saint-Esprit. Fonctionnons-nous avec ce nouveau logiciel. L'autre était rasé, il n'y est plus. Nous devrions petit à petit aller et tendre vers cette perfection dont Dieu nous veut, équipés comme Jésus-Christ et lui ressembler. Amen.